Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la conversion de Simon le magicien. Dans notre dernière étude, nous avons considéré la conversion d'un bon nombre d'hommes et de femmes dans une ville de la Samarie, suite à la prédication de Philippe. Aujourd'hui, nous voulons regarder de plus près le cas d'un homme parmi ces convertis. Il s'agit d'un certain Simon. Voici de quelle manière Luc, l'auteur du livre des Actes, introduit Simon dans le récit. Il y avait auparavant, dans la ville, un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Actes 8, versets 9 à 11. Avant de considérer la conversion de cet homme, remarquons en passant que ces miracles étaient attribués à la puissance de Dieu, mais Dieu n'en était pas l'auteur. Certaines personnes ne croient pas qu'un miracle fait au nom de Jésus puisse être réalisé par la puissance de Satan. La Bible contient pourtant plusieurs avertissements contre ceux qui viendraient au nom du Seigneur pour tromper les hommes, tout en faisant des miracles. Jésus lui-même dit en Matthieu 24, verset 24, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Un faux Christ n'employerait-il pas le nom de Christ? En 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, l'apôtre Paul également parle de ceux qui se présentent comme serviteurs du Christ, mais dont la puissance est de Satan. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Simon de Samarie était donc de ce nombre. Il faisait des prodiges attribués à Dieu. Mais il n'était pas de Dieu. Les miracles mensongers de Satan sont souvent impressionnants, mais ils ne se comparent pas favorablement aux vrais miracles de Dieu. Quand Philippe est venu en Samarie prêchant l'Évangile et faisant, pour attester la vérité du message, des miracles qui étaient réellement faits par la puissance du Seigneur, tout le monde a pu voir la différence. Actes 8, versets 12 et 13 nous relate la réaction de la population samaritaine. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Cette conversion, comme les autres dans le livre des Actes, s'accordent très bien avec ce que Jésus avait dit à ses disciples avant de retourner au ciel. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16, versets 15 et 16. Simon fit ce que le Seigneur avait ordonné, et il fut sauvé. Quand la nouvelle des conversions à Samarie parvint aux apôtres, ils envoyèrent Pierre et Jean, qui prièrent et imposèrent les mains aux Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Notons que le don du Saint-Esprit était promis en Actes 2, versets 38 et 39 à tous les baptisés, mais que ce don ne comporte pas de manifestation visible et miraculeuse. Recevoir ce don signifie que l'Esprit vient demeurer dans le cœur du nouveau chrétien afin de l'aider dans sa nouvelle vie. La présence de l'Esprit, dans ce sens, se manifeste dans la croissance spirituelle au fil du temps. Quand il est dit au sujet des Samaritains que l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux, il s'agit sans doute des dons miraculeux accordés par l'Esprit. Cela est confirmé par les versets 18 et 19 qui disent « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Simon ne parle pas de la venue invisible de l'Esprit de Dieu dans le cœur de ceux qui se convertissent au Christ. Il avait vu quelque chose de frappant quand les apôtres imposaient les mains aux autres. Il voulait pouvoir réaliser la même chose. Pourquoi Simon offrit-il de l'argent aux apôtres? Ce n'était pas pour qu'ils reçoivent le pouvoir de faire des guérisons, de parler en langue, de prophétiser ou de réaliser d'autres miracles. Dieu était déjà en train de distribuer ses pouvoirs à des chrétiens à Samarie par l'intermédiaire des apôtres, et cela sans que ces chrétiens aient à payer de l'argent. Simon a bien précisé ce qu'il voulait. « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Verset 18. Philippe, qui avait lui-même fait de grands miracles, n'avait pas communiqué les dons miraculeux aux convertis de Samarie. Ce n'est pas non plus que tout chrétien qui a suffisamment de foi soit capable de faire ces miracles. Simon a vu que c'était seulement par les mains des apôtres que ces dons étaient transmis. Voilà le pouvoir spécial qu'il voulait acheter. En ce qui concerne les chamans, marabouts ou guérisseurs parmi les païens, nous savons qu'il n'est pas rare que celui qui a de grandes puissances mystiques en donne à ceux qui viennent à lui en secret pour acheter des pouvoirs spirituels. C'est un moyen de s'enrichir. Simon offrait de l'argent aux apôtres, pensant probablement à une gloire personnelle, telle qu'il avait connue avant sa conversion, et à la possibilité de récupérer son investissement en faisant payer les autres avant de leur donner les dons du Saint-Esprit. Il raisonnait comme un homme du monde, et non comme un chrétien. Nous comprenons donc la réaction de Pierre, qui lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » Acte 8, versets 20 à 22. Nous voyons par les propos de Pierre que Simon n'était pas en ce moment dans un état de sauvé. Il avait perdu son salut. Il y a ceux dans le monde religieux qui proclament qu'il est impossible de perdre le salut. « Une fois sauvé, toujours sauvé », disent-ils. Celui qui est réellement sauvé persévérera forcément jusqu'à la fin. Il a une sécurité totale en ce qui concerne son salut. Le cas de Simon pose évidemment quelques problèmes pour ceux qui parlent ainsi. Puisqu'il est indéniable que Simon n'avait pas la faveur de Dieu quand Pierre lui adressa ses paroles, leur seul recours est de dire que Simon n'avait jamais été sauvé. Mais cette position est insoutenable en vue de ce que le texte dit. Au verset 13, Luc écrit « Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. » C'est exactement le même langage qu'il avait employé pour parler des autres Samaritains. « Ils ont cru et se firent baptiser. » Verset 12. En plus, Pierre ne dit pas à Simon qu'il était perdu à cause de tous les péchés qu'il avait commis jusqu'à ce jour, comme si les péchés commis avant son baptême n'avaient jamais été lavés. Pierre lui parle d'un péché particulier qui le condamne, la pensée de son cœur, l'intention qu'il avait en demandant d'acheter le don de Dieu. Enfin, Pierre ne recommande pas à Simon ce qu'il ordonnait à ceux qui n'avaient jamais été sauvés, c'est-à-dire « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Acte 2, verset 38. Soyons clairs, un chrétien peut perdre le salut par son infidélité. Simon avait été sauvé, mais par la suite, il était perdu de nouveau. Alors qu'est-ce que la Bible recommande aux chrétiens qui se trouvent dans cette situation? Pierre dit à Simon, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Acte 8, versets 22 et 24. Étant donné que Simon avait déjà été baptisé de la manière ordonnée par l'Évangile, il n'y avait pas besoin de se faire rebaptiser. Le chrétien qui se trouve dans le péché doit simplement se repentir, c'est-à-dire se détourner de son péché, et prier Dieu pour qu'il soit pardonné. 1 Jean 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ce passage ne s'adresse pas à ceux qui veulent devenir chrétiens, mais à ceux qui, comme Simon, ont déjà été baptisés. Il est vrai que Simon a demandé aux apôtres de prier pour lui. C'est tout à fait normal, selon 1 Jean 5, verset 16. Nous devons prier les uns pour les autres. Mais ce n'est pas comparable au système selon lequel on est contraint de confesser ses péchés à un prêtre qui absout ou pardonne le coupable et lui prescrit des actes de pénitence à accomplir, tels que des prières à réciter un certain nombre de fois. C'est Dieu et non Pierre qui devait accorder le pardon, et il n'y a pas mention d'un sacrement de pénitence. Si vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, faites comme Simon, qui a cru et qui a été baptisé. Si vous êtes chrétien, mais qu'après votre baptême vous êtes tombé dans le péché, ne restez pas dans un faux sens de sécurité, croyant que le salut ne peut pas se perdre. Suivez le conseil que Pierre donna à Simon. Repentez-vous sincèrement et priez le Seigneur de vous pardonner.
Seigneur, qu'entre tes mains je meurs.